Et oui, comme nous, vous n'en croyez pas vos oreilles. En effet, Radio Zone Onde Femme, surtout en direct avec le Brésil, avec plus précisément Recife. C'est vraiment une grande première. Nous sommes tout émus du reste parce qu'on a plutôt l'habitude de se trouver dans l'intimité du studio. Et voilà que nous nous trouvons séparés par un océan. C'est terrible, mais enfin, c'est super. Alors, Catherine, est-ce que tu nous entends toujours?
Oui, le miracle se poursuit ce matin entre Recife et qui, je précise, donc Recife est la capitale du Nord-Est, cette région qui est toujours très, très touchée par la pauvreté, une des régions les plus misérables du Brésil, qui sévit, qui subit beaucoup la monoculture, les problèmes de climat, plus une organisation sociale terrible avec les grands propriétaires terriens essentiellement. Mais Recife, c'est une grande ville. Une grande ville avec des favelas qui s'étendent de jour en jour. J'étais, moi, la première fois au Brésil en 81-82 et je dois dire que de retour ici, je suis très choquée de voir que les choses se sont beaucoup aggravées. Il y a de plus en plus de gens qui vendent n'importe quoi, un légume, une cigarette, des gamins qui mendient, etc. Vraiment, on sent que la vie va toujours plus mal et l'inflation, alors qu'elle avait cessé, devient terrifiante. Imaginez que si vous restez un mois à Recife, le premier jour, vous payez votre billet, disons 30 cruzados, et le lendemain, le mois suivant, à la fin du mois, vous le payez déjà 90 cruzados. L'inflation est actuellement de 300% au Brésil. C'est terrifiant.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'un groupe particulier de féministes avec qui tu as travaillé il y a quelques années et qui, lui, poursuit son travail.
Oui, j'attends impatiemment Gigi, mais je suis sûre qu'elle ne saurait tarder. Oui, le SOS Corpo, je vous disais, est un groupe qui a commencé dans les années 80 à exister en tant que militante. Et, voilà Gigi, écoute, je la vois, elle arrive, 5h30 du matin. Désolée Gigi de te faire lever si tôt. Alors tout de suite, peut-être c'est toi qui vas nous parler immédiatement de ce qu'est le SOS Corpo.
Contente parce que j'ai une vieille copine à côté de moi, Catherine, qui a d'ailleurs accompagné les débuts de notre travail en 82 et qui va pouvoir aussi donner un peu son avis sur le travail. On a donc commencé en 82 un travail avec 8 femmes, un travail essentiellement éducatif sur la santé des femmes. Donc on n'est pas... Comment dire, on n'est pas un dispensaire, on ne donne pas des soins, mais on fait un travail éducatif.
Vous faites un travail éducatif bien particulier. Dans quel domaine? Comment vous avez agi au départ?
Bon, écoute, on a agi, on voulait absolument rencontrer des femmes et savoir ce qu'elles vivaient, et savoir si elles vivaient la même chose que nous, le groupe qui étions des femmes de la classe moyenne. Alors, on ne voulait pas faire des discours. Notre prétexte c'était bon, donner des informations si tu veux sur le corps, sur le corps, voir comment elle vivait la sexualité et puis comparer un peu. Mais on voulait surtout donner l'espace, donner la possibilité qu'elle se donne le temps de penser, de jouer avec leur vie de femme. Alors, je dis jouer parce que c'est important. Je veux dire, on voulait pas faire de discours. On a toujours essayé de trouver des moyens ludiques, des moyens agréables pour qu'on puisse causer ensemble et puisse donner un temps à nous.
Mais concrètement, comment ça s'est passé? Parce que vous avez donc, vous avez discuté entre vous, vous avez pris conscience de certaines choses, une envie de travailler. Vous êtes allé voir des femmes, vous les avez réunies. Comment vous avez fait?
Oui, alors bon, il y avait toute une structure déjà dans les quartiers. Il y avait par exemple un travail de l'église. On était au début de la redémocratisation. Et puis, il y avait des groupements de femmes, des clubs de mères, ce qui s'appelait des clubs de mères, qui étaient en général animés par l'Église catholique. Hein. Des femmes donc, qui se réunissaient pour faire du tricot, des œuvres manuelles, et puis où on profitait justement de ce moment-là pour ce qu'on dit conscientiser, c'est-à-dire discuter aussi de la réalité sociale de ce qu'elles vivaient et du pays. Hein. Alors on a contacté ces femmes-là et puis on a, d'ailleurs Catherine peut s'en rappeler, hein, on a essayé de les séduire en faisant une petite pièce de théâtre. Hein. Une pièce de théâtre qui avait, je ne me rappelle plus combien de sketchs.
Je sais pas, c'est vrai qu'on avait essayé un peu de couvrir tous les divers sujets qui préoccupent la vie quotidienne des femmes. Ça passait de la publicité. Je me rappelle que je jouais un rôle d'une fille à la télévision avec un savon, je sais plus quoi.
C'est qu'elle était d'une belle blonde. Alors, évidemment, elle contrastait avec les femmes de là-bas.
On avait, des sujets plus graves comme le viol, comme le problème de l'avortement et des grossesses. Il y avait, qu'est-ce qu'on avait encore mis?
Le problème de la femme au foyer, dévalorisée par son mari en chômage, vraiment.
Alors tout d'abord, vous avez joué cette pièce devant les femmes et puis après, vous vous engagez la conversation.
Voilà, exactement. Ben, on disait, est-ce que ça ressemble à quelque chose? D'abord, on riait beaucoup dans cette pièce. Hein. D'abord, on se faisait plaisir aussi à nous, puis les femmes se faisaient plaisir. Alors on avait tout de suite un contact qui rompait un peu l'histoire de la classe. Hein, parce qu'il y a quand même, je disais toujours, un problème de classe. Finalement, on est femmes des classes moyennes avec des femmes des quartiers populaire, comment est-ce qu'on peut se rencontrer? Et par le fait du théâtre, alors on arrivait à entrer en communication et puis alors on proposait, si elles avaient envie de continuer cette discussion, de faire un travail.
Et vous étiez bien accueillis?
Alors on était bien accueillis, puis alors notre surprise, la première fois qu'on a fait ça devant 60 femmes qui en général venaient de ces clubs des mères très traditionnels, c'était que leur grande inquiétation, ce qui avait le plus flashé dans les sketchs qu'on présentait, c'était le problème de la sexualité. Où il y avait une femme par exemple qui allait voir un médecin en disant « Docteur, je ne sens rien ». Alors le docteur dit « Enfin, pourquoi vous venez me voir si vous sentez rien ?» Et puis en fait, elle posait le problème de la frigidité.
Et après le théâtre, on s'était réunis. Bon, il faut dire que c'était aussi la première fois que vous essayiez de réunir toutes les femmes que vous aviez contactées dans les différents groupes de quartier. On avait pris le prétexte du 8 mars, non hein, c'était la fête, le jour de l'année internationale des femmes. Et après ce petit théâtre, où tout le monde avait bien ri, effectivement, on s'était partagé en groupe. Et moi, je me souviens que j'étais dans le groupe des femmes qui parlaient de la frigidité. Et moi, j'étais complètement suffoquée de voir à quel point ces femmes acceptaient de discuter de ça, alors qu'on pensait que c'était vraiment une chose qu'elles, jamais elles ne partageraient ouvertement. Oui.
Oui, et puis ça a été fantastique pour notre travail, parce qu'on était très, très critiqués hein, quand on a commencé. Les gens, l'opposition politique, je ne parle même pas des conservateurs, parce que ça on n'en parle pas. Mais je veux dire, la gauche, l'opposition, etc., nous disaient qu'on était divisionnistes. C'est-à-dire que, premièrement, on allait diviser les hommes et les femmes, ensuite que c'était des problèmes secondaires. Bon, alors on a proposé ça, et puis alors on s'est dit qu'on allait toujours tâter le terrain. Et on a décidé alors de travailler la question de la sexualité en passant par le corps de la femme, et en utilisant un moyen qui pouvait être un jeu. Et ça, ce moyen, on a trouvé que c'était la pâte à modeler. Ouais. La pâte à modeler faite avec de la farine et du sel, et où on proposait aux femmes de se poser des questions comme « Qui suis-je ? Comment suis-je faite ?» Et où alors il y avait des tas de désirs, de frustrations, de fantasmes qui passaient à travers la pâte à modeler et où on en discutait ensemble collectivement.
Parce que les femmes n'avaient pas l'impression de perdre leur temps en faisant ça, parce que je crois que le problème c'est souvent on se dit est-ce qu'on a du temps à consacrer pour penser à soi? Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment peut-être de culpabilité?
Alors non, parce que elles étaient absolument curieuses et aussi je pense très marquées par la question de la sexualité dans leur vie quotidienne. Hein, c'est ressenti très fort, comme je l'ai dit, parce que il y a la présence de l'homme qui opprime le corps de la femme d'une manière très forte. Et puis aussi parce que il y a toute une pression de la société moderne, il y a un récif qui est une grande ville de 2,5 millions d'habitants, comme j'ai dit tout à l'heure, qui aussi questionne la femme beaucoup là-dessus. Elle se dit toujours, est-ce que je suis assez chaude? Est-ce que je suis assez bien? Si je ne suis pas assez bien, si je ne suis pas assez, si je n'attire pas mon mari, il va partir trouver une autre femme ailleurs. Il y avait beaucoup de cette inquiétation. Hein. Et puis alors, des tas d'histoires, je veux dire, des tas d'histoires assez traumatisantes de toute l'éducation sexuelle des femmes depuis leur enfance. Les premières règles, la première nuit, enfin la première relation, la dévirginisation, comme on dit.
En plus, je crois pas qu'elles avaient l'impression de perdre leur temps, si je me souviens bien, dans la mesure où pour elles, chacune de ces rencontres était déjà une bagarre en soi, contre elles, contre leur mari. Le fait, par exemple, de pouvoir venir à cette fête du 8 mars, elles avaient déjà dû surmonter des difficultés insensées, rien que pour venir, sans parler de ce qu'elles allaient y dire, mais rien que pour venir. Et j'imagine que quand elles se retrouvaient avec quelques autres femmes pour faire ces discussions et jouer avec cette pâte à modeler, elles n'avaient pas l'impression de jouer vraiment, elles avaient l'impression d'avoir gagné quelque chose, une victoire, parce qu'elles se retrouvaient enfin entre elles pour discuter de quelque chose qui les concernait. Quoi.
Puis vous avez poursuivi comment ce travail ?
Alors, on a poursuivi en passant par le corps, la sexualité, on parlait du problème des enfants, enfin tout ce qui surgissait. Et puis alors, il y avait un grand problème qui est la question de la santé, je veux dire des soins. Les soins qui sont donnés à la population, et puis la question de la contraception, hein, tout la question de contraception, avortement, stérilisation, qui vraiment est un grave problème au Brésil. Je me rappelle la semaine dernière, j'ai beaucoup insisté sur l'histoire de la stérilisation, comme les femmes, par exemple, se stérilisent à tout bout de champ parce qu'elles n'ont aucun autre moyen d'éviter les grossesses impossible à assumer au niveau du quotidien.
Je me rappelle d'ailleurs d'une anecdote incroyable, je ne sais pas si tu en souviens, mais quand on était allé voir les lavandières, donc celles qui dans les favelas gagnent leur vie, comme je crois que Gigi, tu racontais la semaine passée, que les femmes qui restent chez elles, en fait, elles ont toutes sortes de petits boulots. Celle-ci, elle s'était organisée une laverie, et on parlait de contraception. Cette fille avait le même âge que moi, à l'époque, je ne sais pas, 32 ans, et elle avait déjà 10 enfants, moi j'en ai que 2, et elle disait qu'elle allait jusqu'à planter des capsules de Coca-Cola dans le jardin pour ne plus avoir d'enfants. Il y a effectivement une sous-information. Aussi, on a l'impression qu'on recourt à n'importe quoi. Et on était allé avec Lich aussi de faire une enquête sur quels étaient les moyens disponibles dans les pharmacies, en dehors des préservatifs. On ne nous montrait pas grand-chose d'autre.
Oui, les pilules, etc. Surtout que les moyens contraceptifs à disposition de la population des villes, je ne parle même pas de l'intérieur où c'est encore pire, je veux dire, ça c'est la pilule. La pilule et les préservatifs, mais les hommes n'utilisent pas les préservatifs pour la contraception. Ils utilisent la préservatif comme prévention des maladies vénériennes, donc quand ils vont au bordel, je veux dire. Hein. Donc c'est la pilule. Et la pilule est très mal, je l'ai déjà dit, bon je le répète, sur des organismes mal nourris, est très très mal supportée. Donc c'est une inefficacité théorique, la pilule, c'est-à-dire à la mesure où on la prend. Ce qui se passe avec les femmes là-bas, c'est qu'elles la prennent peut-être pendant une année, et puis après elles l'abandonnent, elles veulent plus la prendre, parce que pour elles, c'est le... Quand on leur demande quelle est la meilleure méthode de contraception, elles diront c'est la pilule. Quand on leur demande quelle est la pire, c'est la pilule. Il y a cette ambiguïté terrible.
Alors vous avez, j'ai entendu, Catherine, vous avez fait des enquêtes aussi pour savoir quelle était la situation, aussi qu'est-ce qu'on proposait aux femmes. Parce que du moment que vous avez discuté avec elles, que les problèmes ont surgi, qu'est-ce que vous leur avez proposé ?
On propose pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des informations, on laisse l'espace pour qu'elles s'expriment, et puis on dit c'est pas possible, il faut que ça change, et il faut que la société brésilienne en discute. Hein. Donc, en effet, par exemple, quand tu parles d'enquête, je suis en train de me souvenir aussi, à côté du travail éducatif, on fait des enquêtes où on essaye de systématiser. Systématiser, ça c'est pas un mot très fort. Systématiser les informations qu'on arrive à retirer de ce travail éducatif et qui nous donne du poids pour dire aux différentes institutions qui nous entourent, pour dire aux journaux, pour dire à la radio, etc. Eh bien, il se passe ceci avec les femmes. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'on ne doit pas continuer ? Est-ce qu'on doit changer ? Enfin, on propose que la société en discute.
De madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Eu entendo a juventude transviada e o auxílio luxuoso de um pandeiro, até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Hoje pode transformar. Você vai chorar. Vejo claras fantasias lavar roupa todo dia. Que agonia na quebrada da soleira. Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar.
Vous faites des enquêtes, vous transmettez donc des informations à la presse. Vous avez d'autres contacts avec les autorités?
Ah oui, alors maintenant ça commence. Il faut voir le travail tout dans une dynamique, hein, parce que au début nous on a commencé tout bêtement à interroger les femmes. Ensuite on a fait des enquêtes donc avec des rapports, des données écrites. Et puis on s'est lancé à la radio. Et puis on s'est lancé à voir des institutions même médicales. Et puis alors il y a aussi l'histoire du Brésil. Il faut voir la conjoncture du Brésil. Une démocratisation qui est toujours en train de se faire, je veux dire que c'est un processus. Et puis alors, au niveau des grandes institutions nationales comme les ministères, il y a aussi des femmes qui sont en train de lutter là-bas et qui essayent d'établir des politiques. Et alors là, il y a quelque chose d'assez génial qui se fait, c'est qu'il y a des liens qui s'établissent entre Brasilia, qui est le centre du pouvoir, le pouvoir central, c'est à Brasilia, avec des groupes autonomes féministes comme nous dans tout le Brésil, où ils nous demandent vraiment des conseils,
une aide
à formuler des politiques. Alors ça, bon. Il faut pas se faire des illusions. Je veux dire, la partie n'est pas gagnée comme ça. Hein. Je veux dire, ça, c'est des politiques qui se font sur le papier. Il y aura tout le problème de l'application de ces politiques.
Et des mentalités à changer.
Exactement. Alors.
Et alors, apparemment, vous avez une activité, enfin pas seulement apparemment, qui est très importante. Vous travaillez à plein temps. Comment vous financez? Comment vous vous organisez?
Bon, jusqu'à maintenant, on a grandi petit à petit. Hein. On était deux à se professionnaliser, les six autres à travailler d'une manière militante. Et puis peu à peu, selon les années, on a commencé à augmenter le groupe. Et maintenant, on est les huit qui sont professionnels. Donc on est des féministes professionnelles, comme je dis. Hein. Mais on est financé par des organismes d'aide étrangère. On a été longtemps financé par la Fondation Ford, l'américaine bien connue. Puis maintenant, nous sommes financés par des Anglais, des Allemands. Il y a même l'Église évangélique allemande qui nous finance. Et les Hollandais.
Alors, projet surtout reconnu à l'étranger.
Oui et non, je veux dire, il est reconnu matériellement par l'étranger, hein, parce que c'est clair qu'un pays comme le Brésil a énormément de peine à donner de l'argent à des organismes autonomes. Hein. Mais disons que l'on commence maintenant à avoir des liens, presque des liens institutionnels temporaires avec des ministères, puisqu'ils nous ont demandé de faire des sensibilisations pour les professionnels de santé. Quand je dis professionnels de santé, c'est médecins, infirmières qui travaillent dans les organismes d'état de santé, les hôpitaux, les dispensaires, etc.
Donc vous leur donnez des cours à ces gens-là?
Oui, alors c'est des cours. Alors entends-moi bien, c'est pas. Hein, on leur donne pas des. On essaie de faire la même chose qu'on a fait avec les femmes.
La pâte à modeler aussi.
Où on essaye de montrer les liens qui existent entre eux, des professionnels, eux, des hommes ou des femmes qui travaillent dans ces hôpitaux, et puis la cliente qui vient. Hein. Quelle identité, quelle différence et quelle similitude il y a. Hein. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, tout en ne niant pas. Je veux dire, parce qu'il faut voir les choses. Je vais te donner un exemple. L'autre jour, on voulait aller interviewer une gynécologiste.
Une gynécologue
qui faisait des accouchements. Alors, on était à l'hôpital d'État. Et puis, on est arrivé. Elle nous avait dit à 7h du matin, ça va, c'est très calme. Je vais finir ma permanence, etc. Vous pouvez venir. Alors, on est arrivé. Et puis, en fait, elle était toute habillée pour rentrer en salle de chirurgie. Elle me dit, écoutez, j'ai cinq femmes qui sont en attente d'entrer en salle d'opération pour des césariennes. Et puis, je suis très embêtée parce que l'anesthésiste n'est pas encore arrivé. Et elle me dit, oui, puis il y en a une, ça fait une heure qu'elle est entrée en souffrance fœtale. Alors, vous voyez un peu les conditions de santé qui existent là-bas, les conditions dures, tant pour les gens, hein, qui sont soignés, comme pour aussi les professionnels. Je veux dire, l'anesthésiste, on peut dire, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il n'est pas arrivé? Enfin, c'est incroyable, l'irresponsabilité. Mais alors, il faut voir aussi que ces professionnels, par exemple, sont quelquefois obligés de faire trois boulots pour pouvoir maintenir leur niveau de vie de classe moyenne auquel ils sont habitués. Donc, les conditions de travail aussi sont très difficiles. Les travailleurs sont frustrés. Et évidemment, ils ont en plus une mentalité brésilienne, c'est-à-dire aussi chargée de préjugés, d'élite, de classe, et qui font que ça retombe sur les plus faibles, comme d'habitude, d'une manière assez dure. Donc on essaye de mettre ça en lumière, en évidence, et puis de travailler, puis de dire bon, qu'est-ce qu'on peut changer, parce qu'en fait on est tous des travailleurs et on est tous dans la même salade, et on a tous envie que le Brésil change. Comment est-ce qu'on peut faire pour modifier les choses ensemble?
Et en général, ce que vous proposez a un écho favorable de plus en plus. Je dis, moi j'avais été frappée par l'attention et l'attente des femmes avec lesquelles j'avais travaillé avec vous, mais aujourd'hui, que ce soit les professionnels, soit les femmes, ça répond de plus en plus, ça devient vraiment quelque chose qui...
Oui, parce que, bon, il n'y a pas que nous qui faisons ce travail. Je veux dire, ça, dans les masses médias, dans les radios, dans les télévisions, on parle de plus en plus de la femme, on parle de plus en plus des relations difficiles. Les feuilletons qui ont une énorme audience à la télévision au Brésil, dans tout le Brésil, on regarde les feuilletons, mettent le féminisme en avance, c'est très très fort. Donc il y a toute la discussion de la nouvelle société brésilienne, de la constitution, d'une société qui doit changer parce que personne ne la supporte plus, quoi. Et alors là où il y a de nouveau, là pour revenir à notre Fernando Gabeira qui disait que les relations hommes-femmes était le point, un des points fondamentaux pour la transformation du Brésil, eh bien, je pense que, en effet, dans les discussions qu'on fait avec les professionnels de santé, par exemple, où on voit que il faut changer nos rapports, non seulement nos rapports de professionnels, mais nos rapports d'humains.
C'est vrai que la situation, d'une part, nous paraît assez différente de celle qu'on peut vivre ici, car tu parles de conditions de travail qui sont extrêmement difficiles, de femmes qui sont peu informées, mais finalement, moi, je peux pas m'empêcher de faire un rapprochement. Puis je me dis, mais nous, qu'est-ce qu'on vit ici en Suisse? Toi qui as vécu aussi en Suisse et puis qui viens ici, qui est aussi en contact avec des femmes, quelle impression ça te fait? Est-ce que tu as l'impression que les femmes ici ont dépassé, on réussit à réfléchir, à prendre conscience de leur corps, de leur sexualité, des rapports hommes-femmes, ou bien ou non?
Oui, alors c'est vraiment la grosse question. Moi, j'aimerais beaucoup en fait me donner aussi cette expérience d'essayer de faire le même travail que je fais là-bas ici. Je trouve que c'est vrai, c'est clair que il y a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'accès aux moyens de santé, de contraception, peut-être plus de dialogue entre hommes et femmes. Mais on a l'impression que tout ça reste sur un plan très très cérébral, très rationnel. Et moi, j'ai l'impression que on est trop.
Gigi, je te remercie infiniment de nous avoir présenté le SOS Corpo. Ne vous étonnez pas que Gigi parle si bien le français. Gigi Nogueira Bandler, qui est en fait à l'origine française, elle a vécu à Genève pendant longtemps. Elle est tombée amoureuse d'un Brésilien avec qui elle est partie au Brésil. Et puis là, le Brésil l'a fait craquer. Elle a décidé qu'elle voulait y rester. Et c'est pour ça qu'elle parle à la fois hyper bien brésilien avec toutes les petites intonations, etc. etc. Et puis en même temps, elle a gardé son genevois, n'est-ce pas, Gigi, quand même, un petit peu dans son accent. Alors, je crois qu'il faut qu'on retourne à Genève, là, maintenant. Alors, Marianne, on se retrouve tout à l'heure, peut-être, pour d'autres histoires sur le Brésil.
Oh oui, bien sûr qu'on se retrouve tout à l'heure pour d'autres histoires sur le Brésil, puisque nous avons un rendez-vous ensuite pour parler de Maria Bethânia. Enfin, j'espère que tu pourras rester avec nous, au cas où tu aurais des questions à poser à Nancy Psilantis, qui nous parlera de Maria Bethânia. Mais avant, encore un petit air que toi, tu nous avais proposé.
Oui, je crois que c'est une petite batucada. Batucada,
oui, c'est
un orchestre composé uniquement de tambours et de percussions qui défile dans la rue ici à Recife, à Olinda. On en trouve par exemple tous les dimanches soirs sur la place en haut du village et où les gens viennent écouter. Ils s'exercent pour le jour où ils sortiront dans la rue pour le carnaval. C'est un peu une musique qui est plus du sud, plus de Rio. Ici, ce n'est pas la musique typique du carnaval, mais je crois que tout à l'heure, on se fera un petit moment musique carnavalesque. Est-ce qu'on en reparlera?
Alors donc, toujours, vous êtes à l'écoute de Remue-Ménage sur Radio Zone 93.8. Aujourd'hui, une grande journée. Une journée, pour nous, c'est le carnaval, carrément, c'est la fête, puisque nous sommes en direct, en duplex, avec Recife, au Brésil. Retour à Genève pour un petit instant, donc, mais toujours pour parler du Brésil, pour parler de Maria Bethânia et de son dernier disque qui n'est pas, enfin, qui vient de sortir, mais qui n'est pas encore totalement diffusé.
No tempo em que a maçã foi inventada, antes da polvorada roda e do jornal, a mulher passou a ser culpada pelos deslizes do pecado original. Guardiã de todas as virtudes, santas e megeras, pecadoras e donzelas, filhas de Maria ou deusas lá de Hollywood, são irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas, tão belas. Ó mãe, ó mãe, ó mãe, nossa mãe, abre teu colo generoso, parir, gerar, criar e provar nosso destino.